As I previously testified, I have known Vice President Biden for 24 years. He is an honorable man, and I hold him in the highest regard.
Raphaël, aujourd'hui se poursuivaient les audiences publiques pour les procédures de destitution de Donald Trump, et il y avait des gros canons aujourd'hui qui témoignaient.
Oui, et c'est ce qui est intéressant, c'est que le nom qu'on attendait le plus de la journée au final n'est pas celui qui a fait le plus de vagues. Celui qui est en fait en train de créer toute une réaction à Washington, c'est Kurt Volker. Je dis en train parce qu'il est, était cédulé à la toute fin de la journée, en train de témoigner. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un rare témoin des Républicains. C'est eux qui voulaient l'entendre aujourd'hui venir témoigner. Or, il est allé qualifier à tour de rôle, d'abord et avant tout, Joe Biden, l'ex-vice-président démocrate, d'homme honorable. Et quelques instants plus tard, les allégations qui ont été lancées contre lui, contre Biden, de théorie du complot. Donc, ça ne faisait pas tout à fait partie des lignes qui étaient préparées
du côté républicain. Est-ce qu'il avait, l'ex-ambassadeur Volker, est-ce qu'il avait témoigné à huis clos? Est-ce qu'on savait ce qu'il allait dire?
Oui, et c'est ça qui est remarquable. En fait, oui et non, parce que tu m'as posé deux questions. Oui, il avait témoigné en privé. Et non, clairement, du côté républicain, on ne savait pas qu'il allait dire ça. En fait, ce qu'il a fait, c'est exactement ce que Gordon Sondland, le témoin vedette qui va être là demain, a fait en privé. C'est-à-dire, y aller d'une première déclaration qui est plus favorable à l'endroit de Donald Trump pour plus tard amender son témoignage et donner une version beaucoup plus accablante contre Donald Trump. La différence entre Sondland, qui va témoigner, je le répète, demain, et Volker, qui est en train de témoigner aujourd'hui, c'est que Volker a fait ce changement-là à 180 degrés en direct à la télévision nationale. Donc, ça a pris tout le monde de court. C'est assez remarquable.
Parce que c'est ça. Ce que j'avais entendu du témoignage de Volker, ce qui circulait de lui les dernières semaines, c'est qu'il était il était un peu soft là, sur le président Trump et son implication dans la filière ukrainienne.
C'est ça. Et le premier témoignage qu'il avait donné en privé semblait suggérer qu'il était largement, peut-être pas complètement, mais largement du côté du président. Là, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est, disons, un tout autre son de cloche. Et ça commence à faire de moins en moins de gens qui se rallient à la version du président, comme quoi il n'y a pas eu de pression indue qui a été mise. Et la version selon laquelle l'enquête que Donald Trump voulait tant sur les Biden, qui aurait été menée par le gouvernement ukrainien, était parfaitement légitime. Je te mentionnais le témoin vedette qui était, en fait, attendu au début de la journée. Bien, on l'a quand même entendu. Je te mentionne quelques mots sur lui. C'était Alexander Vindman. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a témoigné déjà en privé. Là, c'était évidemment en public aujourd'hui. Ça, c'était un témoin qui était invité par les démocrates. Donc, sans grosse surprise, a eu des mots assez durs à l'endroit du président et surtout de son comportement. Vindman, ça faisait partie des personnes qui étaient des parties prenantes de l'appel, du fameux appel entre Trump.
Lui, il a entendu l'appel, Vindman. Là, ouais.
Ben, c'est ça. Et donc, contrairement à tous les autres témoins que Donald Trump accuse d'être des sources lointaines et de répéter des oui-dire, ben là, dans le cas de Vindman, c'est quelqu'un qui avait une connaissance directe du dossier. Il était sur la ligne téléphonique. Il a entendu ce qui a été dit. Et ce qu'il avait à rapporter, c'est que, selon lui, c'était vraiment inquiétant parce qu'un président américain, normalement, ne discute pas de cette façon-là à un homologue international.
Oui, c'est ça. Pour situer les gens, Raphaël, je pense qu'il faut le dire, le contexte est important. C'est ce qui a mis Donald Trump dans le trouble et ce qui a déclenché les procédures de destitution qui sont devant nous présentement, c'est que Trump, dans une conversation avec le président ukrainien, Zelensky, a lié une aide américaine qui était promise pour se défendre contre les Russes, le 450 millions, à une enquête contre son adversaire démocrate Joe Biden. Puis ça, évidemment, c'est quelque chose qui se fait pas dans les mœurs politiques. Je pense même que c'est illégal.
Bien, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est plus une question de mœurs. À partir du moment où ça devient une question potentiellement légale, c'est-à-dire le viol de la loi américaine, c'est là que c'est vraiment problématique. Et je t'ajoute ceci. La ligne de défense des républicains, des membres républicains du comité aujourd'hui est assez particulière parce que ce qu'on a essayé de mettre de l'avant encore et encore et encore, c'est le fait que le président des États-Unis est celui qui a le pouvoir unilatéral de déterminer la politique étrangère à l'égard de pays comme l'Ukraine. Ce qui est vrai, mais ce qui est en fait pas vraiment en lien avec les allégations contre Donald Trump. La question, c'est pas de savoir si le président des États-Unis a le pouvoir de déterminer la politique étrangère. La question, c'est de savoir s'il a abusé de ce pouvoir-là. Et à ce chapitre-là, aujourd'hui n'était pas une journée particulièrement positive. pour le président.
Parfait. OK. De la politique, on va s'en aller vers le criminel parce qu'il y a deux personnes, deux employés de la prison où Jeffrey Epstein s'est suicidé il y a quelques mois, qui sont inculpés aujourd'hui, là, sont accusés au criminel.
Et ce sont deux gardiens de prison. On s'en était parlé il y a quelques semaines quand cette espèce de scandale-là avait vraiment éclaté parce qu'évidemment, Jeffrey Epstein attendait son procès. Et là, boum, du jour au lendemain, on le retrouve mort dans sa cellule de prison. Donc, les deux gardiens qui, non seulement n'avaient pas fait les rondes à chaque 30 minutes qu'ils étaient censés faire, mais qui, après coup, une fois que Epstein avait été retrouvé mort, avait falsifié les documents officiels de la prison. Question d'essayer de faire en sorte qu'on soit pas capable de retrouver les coupables et le fait que c'était de leur faute, entre autres, que Epstein ait pu échapper à la justice. Tu sais, d'un côté, tu vas me dire, c'est des petits poissons qu'on a pris aujourd'hui. C'est vrai. Au moins, en même temps, il y a deux personnes qui vont être imputables de ce fiasco-là, de cette tâche carrément sur la démocratie américaine. Mais il reste qu'il y a beaucoup de gens à cause, justement, de ce décès prématuré-là, qui ne verront jamais la justice. Et là, on ne parle pas de gardiens de prison. On parle de gens pas mal plus riches et pas mal plus puissants que ça, qui faisaient partie du cercle d'amis de M. Epstein.
Merci beaucoup, Raphaël. On s'en retrouve demain pour une autre chronique américaine. À venir, dans quelques minutes, Luc Ferrandez va nous parler de Stephen Guilbeault, qui ne sera pas ministre de l'Environnement. Et dans une heure, Julie Snyder finit l'émission avec nous pour nous parler de son nouveau talk show.